Radio Prague, les informations.
Petr Nečas se prononce pour la démission du maire de Prague. Le futur gouvernement veut augmenter les forfaits pour les soins médicaux et début du festival United Islands. Bonjour, dans une interview publiée sur le serveur internet idnes.cz, le chef de l'ODS Petr Nečas a déclaré que s'il était à la place du maire de la capitale, Pavel Bem, il démissionnerait avant les élections municipales de l'automne prochain. Lors des dernières élections législatives, l'ODS a eu des résultats médiocres dans la capitale, ce qui avait poussé Pavel Bem à quitter ses fonctions de président de la branche pragoise du Parti civique démocrate. Bem a néanmoins rejeté cette idée. Petr Nečas a d'autre part appelé à ce que soit trouvé un accord entre les trois partis qui formeront la future coalition gouvernementale pour la prochaine campagne électorale. L'idée que nos trois partis, l'ODS, Top 09 et Affaires publiques, vivent dans la concurrence permanente et dans une relation de rivalité serait dévastateur pour le bon fonctionnement du gouvernement, a-t-il déclaré. Les membres de la future coalition gouvernementale, qui sera composée donc de l'ODS, Top 09 et Affaires publiques, ont annoncé leur intention d'augmenter les forfaits à payer pour les soins médicaux. Ainsi, pour une consultation, le forfait actuellement à 30 couronnes devrait passer à 50 couronnes, soit environ 2 euros, et celui d'une journée d'hospitalisation de 60 à 100 couronnes. C'est ce qu'a annoncé Vladimir Pavelka de Top 09 en expliquant que l'augmentation de ces forfaits non remboursés permettra d'aider le système médical en temps de crise. Le Sénat tchèque a approuvé une proposition de loi qui donnerait le statut d'ancien combattant à ceux qui auraient participé à la lutte armée contre le communisme. Cela concernerait également les personnes ayant participé à des sabotages, celles ayant aidé des gens à s'enfuir du pays, ou même plus largement à celles qui ont manifesté leur opposition au régime par des manifestations ou des pétitions. Le projet de loi doit cependant encore passer devant une commission sénatoriale sur les droits de l'homme. Une proposition de loi sensiblement analogue avait déjà fait le fruit d'un débat parlementaire il y a 2 ans, mais elle avait été bloquée à la Chambre des députés. Le niveau moyen des pensions de vieillesse à la fin du mois de mai a atteint les 10 065 couronnes, avec des différences notables entre hommes et femmes, puisque la moyenne pour les premiers se situe à 11 182 couronnes, tandis que pour les secondes, elle ne touche que 9 143 couronnes. Au cours des 5 dernières années, depuis mai 2005, le montant moyen des retraites a augmenté de 2 350 couronnes. L'ex-président de la République tchèque Václav Havel ne visitera pas le Festival international du film de Karlovy Vary. Havel, qui est un habitué de Karlovy Vary, a décidé de se consacrer à l'adaptation au cinéma de sa dernière pièce, Sur le départ. Il en assurera lui-même la réalisation. Or, le tournage doit commencer le 2 juillet, qui est aussi la date d'ouverture du plus important festival de cinéma en République tchèque. Et le festival des îles de Prague, United Islands, a commencé jeudi soir dans la capitale tchèque par la nuit des clubs. 18 clubs de la ville ont ouvert leurs portes gratuitement dans toute la ville à partir de 18h et ils ont proposé des concerts gratuits de groupes tchèques comme Sunflower Caravan, Please the Trees ou Basta Fidel. Le festival se poursuit à partir de ce vendredi et jusqu'au 26 juin prochain sur les îles du centre-ville. On termine avec un mot de météo. Samedi, jour de fête des Adriana, la météo sera à nouveau estivale avec un temps majoritairement ensoleillé. Quelques orages pourront éclater, néanmoins les températures maximales oscilleront entre 20 et 24 degrés. Voilà, c'était le bulletin d'information qu'avait le plaisir de vous présenter Anne Carvelure.
Faits et événements en République tchèque. Anna Kubišta.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette dernière édition complète de la semaine. Après ce point sur l'info du jour, les grands faits marquants, le gouvernement Fischer a donné sa démission. Aujourd'hui, vous le savez, nous reviendrons sur le mandat de ce cabinet intérimaire formé il y a 1 an en pleine présidence tchèque de l'Union européenne. Les salariés d'une entreprise française ont protesté cette semaine contre la délocalisation de certaines activités vers l'usine Karosa de la ville de Vysoké Mýto en République tchèque. Plus d'infos dans quelques minutes. Et enfin, on se déplacera dans le nord-est de la Bohème, à Hradec Králové, qui vit à l'heure du théâtre jusqu'au 30 juin prochain. Bonne écoute de ce programme.
«
Le Premier ministre Jan Fischer a remis la démission de son gouvernement au président de la République Václav Klaus vendredi matin au château de Prague, formé en catastrophe en mai 2009 suite au renversement par les députés du gouvernement libéral de Mirek Topolánek en pleine présidence tchèque de l'Union européenne. Le cabinet intérimaire mis sur pied par Jan Fischer était alors appelé à ne rester en place que quelques mois afin d'assurer les affaires courantes. Un peu plus d'un an plus tard, c'est l'un des gouvernements les plus appréciés de ces dernières années par les Tchèques qui achève sa mission. Guillaume Narguet.
Initialement, le gouvernement d'experts, aussi parfois présenté comme apolitique, n'était censé diriger le pays que jusqu'aux élections législatives anticipées prévues en octobre 2009. Mais les élections ayant été annulées à la dernière minute, faute de consensus politique sur la dissolution de la Chambre des députés, Jan Fischer et son équipe ont donc poursuivi la tâche qui leur avait été confiée jusqu'à aujourd'hui. Pompier de service, mal connu du public à son arrivée au pouvoir au printemps 2009, Jan Fischer est depuis devenu une des personnalités politiques les plus respectées sur la scène politique tchèque. Un nouveau statut que l'ancien président de l'Office tchèque des statistiques doit d'abord à son travail et à celui de son cabinet, comme l'a reconnu le président Václav Klaus ce vendredi lors de la remise de la démission.
Pour certaines choses, le gouvernement a eu la tâche compliquée, mais pour d'autres choses, sa tâche a été facilitée par le fait qu'il ne possédait pas d'opposants marqués sur la scène politique l'attaquant de tous les côtés. Mais le sentiment général qui règne dans notre pays, et je dois préciser que c'est un sentiment que je partage, est que le gouvernement a rempli sa mission.
À l'issue de sa rencontre avec le chef de l'État, Jan Fischer a indiqué que son gouvernement ne prendrait plus de décisions importantes dans les prochaines semaines, car si sa démission a bien été remise, le cabinet continuera encore à diriger le pays jusqu'à la nomination de la coalition gouvernementale tripartite de centre-droit actuellement en cours de formation. Petr Nečas, chargé de la formation de cette coalition après les élections législatives de la fin mai et probable futur Premier ministre, a annoncé qu'il entendait parvenir à ses fins d'ici à la mi-juillet, une date butoir qu'il a fixée, notamment afin de pouvoir commencer à travailler au plus vite sur le budget de l'État pour l'année prochaine.
Comme je vous le disais en titre, cette semaine, un mouvement de protestation a été lancé en France contre la réforme des retraites, mais à Annonay, en Ardèche, les salariés de l'entreprise Irisbus Iveco protestaient également cette semaine contre la délocalisation de certaines activités vers l'usine Karosa de la ville de Vysoké Mýto en République tchèque. Des syndicats ont appelé à un débrayage pour marquer leur mécontentement après l'arrivée de 25 salariés tchèques venus observer le fonctionnement de l'usine française. José Dos Santos est secrétaire du syndicat Force ouvrière de l'entreprise. Il a été joint par téléphone par Alexis Rosenzweig.
La direction nous a informé qu'elle entendait faire produire des autobus Citelis, donc transport urbain, sur les trois sites du groupe, les trois sites de production du groupe, c'est-à-dire Annonay, Valle Ufita en Italie, et démarrer une production aussi en République tchèque. Et c'est là où nous avons des craintes, puisque la direction, si vous voulez, elle nous dit qu'en République tchèque, elle produit les bus, je ne sais plus combien de pourcentage en moins, qu'au niveau de la France. Et donc ça amène des craintes vis-à-vis des salariés des Risbus France, parce qu'ils risquent de voir, si la production est transférée en partie d'Annonay vers Vysoké Mýto, ce seront des emplois en moins sur notre site. Et c'est pour ça qu'effectivement, les salariés, ils ont débrayé pour protéger un petit peu aussi leur emploi, quoi. Parce que derrière, c'est aussi leur emploi qui est en jeu.
Et mécontent du fait que, je crois, des salariés tchèques soient venus observer le fonctionnement de l'entreprise.
Alors, voilà. Donc, c'est ça qui a mis la goutte qui a fait déborder le vase, c'est celle-là. C'est que l'entreprise, si vous voulez, pour démarrer une production en Tchéquie, donc elle a fait venir des salariés tchèques pour visiter la ligne, pour visiter les lignes de production, enfin des autobus, pour voir les méthodes de travail, analyser les méthodes de travail et apprendre les gestes, ainsi de suite. Voilà. Et donc ça, les salariés, si vous voulez, ils ont le sentiment qu'on vient les spolier de leur savoir-faire, qu'on leur prend leur savoir-faire, qu'on leur prend leur technicité, pour l'installer ailleurs. Et derrière, le remerciement qu'ils vont avoir, c'est de dire, ben, il n'y a plus de boulot, de travail pour toi. Donc, ben, tu vas te trouver au chômage. Et donc, c'est pour ça que les gens ne sont pas contents de cette politique. Donc, pour nous, syndicats FOU, ce qu'on veut, c'est que avoir une discussion franche et des engagements de la direction pour dire que tout ce qui est véhicule pour le marché France, tout ce qui est autobus pour le marché France, seront fabriqués en France.
Pour parler peut-être des relations entre vous, est-ce que du coup les relations sont tendues entre les salariés tchèques qui viennent à Annonay et les salariés de l'entreprise ?
Non, et l'objectif n'est pas de tendre les relations. Vous savez, quand on est salarié, qu'on soit salarié en France ou qu'on soit salarié en République tchèque, il y a un employeur et il vous dit voilà votre travail à faire. Donc les salariés tchèques qui sont là, les salariés d'Annonay le savent très bien qu'ils sont là parce que leur employeur leur a commandé de venir ici, donc et qu'ils n'ont pas trop le choix. Donc l'animosité elle n'est pas envers les salariés. L'animosité, elle est envers la direction et sa politique industrielle, quoi. Et pour répondre, pour calmer cette tension, ben, il faudra que la direction, comme je vous le dis, qu'elle s'engage sur un plan industriel et à dire, ben, tous les véhicules, tout le marché, tout ce qui est véhicule à produire pour le marché français seront produits en France. Parce que on a quand même un passé, si vous voulez, parce que l'usine de Vissokemitou, hein, Carossa, elle fait partie du groupe, elle faisait partie du groupe Renault, donc elle est dans l'entreprise depuis les années 90. Ce qui s'est passé, si vous voulez, entre-temps déjà, Annonay, c'était le site qui, à l'époque, produisait les autocars de tourisme, qui produisait les autobus et qui produisait les autocars interurbains, lignes scolaires. Qu'avec l'arrivée de l'entrée de Carossa dans le groupe, on a petit à petit arrêté les productions d'autocars interurbains lignes scolaires et leurs remplaçants ont été faits en République tchèque. Aujourd'hui, 80% des autocars, même plus de 80%, 85% des autocars vendus en France, ce sont des autocars de ligne, des autocars de ligne scolaire et interurbains. Ce qui fait que, si vous voulez, 85% de la production qu'on avait ici en autocars, eh ben aujourd'hui on ne la fait plus et c'est Carossa qui l'a fait. Et donc au même temps, si vous voulez, si on parle, donc ça c'était en termes de production, en termes d'emploi en 2000, lorsqu'on faisait ces autocars là, lorsqu'à Annonay on faisait l'autocar de ligne scolaire, on était 2200. Aujourd'hui qu'on ne fait plus ces autocars là, on n'est plus que 1100 salariés dans cette entreprise. Et donc, c'est de là où on dit, ben, si demain les Tchèques, Vissokemitou, fabriquent les autobus pour le marché français aussi, donc c'est encore l'établissement d'Annonay qui va perdre un emploi et ainsi de suite. Et donc, c'est un peu normal que les salariés se mobilisent pour protéger leur avenir.
À Hradec Králové se déroule jusqu'au 30 juin le 16e Festival des Régions Européennes, organisé par le Théâtre Klitspera. C'est un rendez-vous théâtral devenu incontournable dans cette région du nord-est de la Bohême. Des ensembles et des troupes venus de 13 pays d'Europe, des observateurs venus du Japon, de l'Australie et de l'Afrique, 260 représentations en extérieur et en intérieur. Le Festival des Régions Européennes a encore vu grand cette année et joue d'ailleurs déjà la majeure partie de ses pièces à guichet fermé, signe de la vitalité de l'événement. Ladislav Zeman, directeur du festival et du théâtre Klitspera, nous rappelle à cette occasion les origines de ce rendez-vous annuel sur les planches.
Le festival est né en 1995. Cette année, nous en sommes donc à la 16e édition. Il s'inspire d'une déclaration de Václav Havel qui disait que quand les États n'arrivaient pas à se mettre d'accord, il fallait que les citoyens eux-mêmes essayent de communiquer entre eux par-delà les frontières, parce que c'est plus facile à ce niveau. Nous avons juste adapté ça au théâtre, et c'est pour cette raison qu'il s'appelle Festival des Régions Européennes.
Václav Havel, l'ancien président, est aussi et avant tout un dramaturge dont les œuvres ont donc une place toute particulière chaque année dans la programmation du festival. Et ce, pas seulement en tchèque, puisque ses pièces sont parfois présentées par des troupes étrangères, françaises notamment. Autre grande personnalité présentée à Hradec Králové, Milan Kundera, dont la pièce Ptákovina a inauguré le festival lundi dernier.
Cette pièce est née au milieu des années 1960. C'est le Činoherní klub de Prague qui a préparé cette mise en scène. C'est une pièce encore très actuelle. On retrouve de nombreux passages qui touchent à des problèmes d'aujourd'hui. C'est pour cette raison que nous l'avons choisie et d'ailleurs le public était ravi.
Les représentations se déroulent classiquement dans un théâtre en dur, mais également en plein air et dans la rue. Le festival fait en effet la part belle aux genres alternatifs de théâtre, comme le cirque ou le théâtre de rue, mais aussi aux formes originales de représentation, comme le détaille Ladislav Zeman.
Vladimir Moravec et son théâtre Husa na provázku a préparé un projet intitulé « La perversion en bohème ». Ce sont trois pièces en réalité. La première s'appuie sur le scénario « Des amours d'une blonde » de Miloš Forman. La deuxième est une variation autour des pièces de Havel et s'appelle « Circus Havel ». La troisième, c'est la pièce de David Drábek, « Place des frères machines ». Samedi sera une journée exceptionnelle où les trois pièces seront jouées les unes après les autres. On commence à midi pour finir vers minuit.
Parmi quelques idées d'autres spectacles à voir à Hradec Králové, celui de l'ensemble franco-tchèque Décalage, dont nous avons déjà parlé plusieurs fois sur Radio Prague, et qui a préparé un spectacle intitulé Sans terre, ou encore une mise en scène inspirée de la vie et de l'œuvre de la sculptrice française Camille Claudel. Tous les détails du programme sont à consulter sur le site du théâtre www.klitsperovodivadlo.cz. Et le programme en français continue avec la rubrique hebdomadaire consacrée à l'économie et au commerce. Elle est consacrée aujourd'hui au commerce des spiritueux. Cette semaine était organisée à Prague un salon de spiritueux et Alexis Rosenzweig est allé poser quelques questions à son organisateur français.
Économie, commerce. Alexis Rosenzweig.
Éric Godet, je suis journaliste, correspondant de magazine gastronomique aux États-Unis et en Asie, basé en France. Et j'organise différents événements de promotion de vins et de spiritueux, dont ce salon des spiritueux qu'on fait depuis 10 ans à Paris.
C'est la première fois à Prague ?
Et c'est la première fois à Prague.
Alors, en quoi ça consiste un salon de spiritueux ? On imagine qu'il y a du liquide.
Mais il y a du liquide, un peu de solide aussi, pour que les gens se refassent un palais, mais effectivement surtout du liquide, donc des producteurs de spiritueux, cognac, armagnac, rhum, eau de vie de fruits, etc.
Alors c'est en collaboration avec Ubi France, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a que des spiritueux français présentés aujourd'hui à Prague ?
Non, il y a aussi des spiritueux étrangers. Vous voyez, il y a des spiritueux grecs, il y a des spiritueux tchèques, mais c'est vrai que pour notre première édition, on a surtout des producteurs français.
Alors, quel est le but ?
Et le but est de développer un peu la culture des spiritueux et d'aider un peu les producteurs, enfin, leur fournir un outil de travail pour présenter les spiritueux, qui forment une catégorie un peu à part au sein de la gastronomie. Vous avez les vins, les produits, etc. Et à l'intérieur de tout ça, il y a une famille de produits merveilleux qui sont les spiritueux.
Est-ce que vous avez un aperçu du marché tchèque en ce moment ? Vous avez un peu étudié avant de faire ce salon ici ?
On l'a regardé un petit peu. Il semblerait que le marché se porte relativement bien, n'est pas trop fléchi par rapport à d'autres marchés ailleurs en Europe et dans le monde. Et que ce marché en fait se porte bien. Il suffit d'ailleurs d'aller dans les bars, dans les restaurants, etc. Et on voit que la consommation a l'air de tenir.
Alors, on consomme davantage quoi ici ?
Quoi ici? Ben apparemment de tout. Il semblerait que les gens sont en train de passer non pas de basculer, mais que il y a un développement un peu de ce qu'on observe, ce qu'on a aussi observé en France, qu'on commence à observer un peu partout, un développement de culture de spiritueux et un changement aussi dans le mode de consommation. C'est-à-dire qu'on est moins dans la consommation, je dirais, un peu traditionnelle, digestif, etc. On passe plus dans des pratiques de cocktail et ensuite de finger fooding, d'association entre des spiritueux et des nourritures. C'est aussi pour ça qu'on a des nourritures ici, des producteurs qui sont là et qu'on fait ensuite un dîner avec les spiritueux. C'est un peu un clin d'œil à ces nouveaux modes de consommation.
Alors la référence ici reste quand même malgré tout la Becherovka qui a été rachetée par une entreprise française. C'est important ça ?
Ben important, au moins important pour Pernod Ricard. Je veux dire parce que du coup ils sont d'emblée leaders sur le marché local, je pense. Et sinon oui, je pense que ça fait partie de la culture locale et je pense que c'est bien que maintenant ces spiritueux aient les moyens de se développer. Quoi.
Qu'est-ce qu'on connaît ici? Qu'est-ce que les Tchèques connaissent? Alors, je sais qu'il y a une grande tradition ici de Metaxa, étrangement. C'est a toujours été consommé même sous le communisme et je crois que les Tchèques sont assez friands de Metaxa, qui est donc grec. Qu'est-ce qui est connu par les Tchèques des spiritueux français?
Ce qui est connu par les Tchèques, à ce que j'en sais, parce que je suis pour le coup pas expert du marché tchèque, mais les grands noms, je dirais, des spiritueux français, tu vois, cognac, armagnac, rhum, etc., sont des noms connus. Derrière les marques, les grandes maisons sont connues, mais il y a beaucoup de petits producteurs ou producteurs de moindre importance, moins connus, qui eux cherchent aussi à se faire une place à côté de ces grands noms.
Quel public cherche-t-on à attirer dans ce genre de salon que vous organisez partout dans le monde?
C'est des salons essentiellement pour professionnels, c'est-à-dire des sommeliers, barmen, cavistes, restaurateurs, directeurs de la restauration, agents, importateurs, etc. La presse, bien sûr. Le but étant, je vous dis, de faire une place de marché et d'apporter des outils pour que les gens apprennent à déguster les produits et ensuite à les revendre à leurs clients. Et savoir comment les prescrire et voir en fonction des goûts de leurs clients quel type d'eau de vie leur proposer, sous quelle forme.
Et à quel prix? Est-ce qu'il faut faire des efforts sur les prix quand on vient en République tchèque ou ce n'est plus le cas avec l'augmentation du niveau de vie?
La notion de prix est, je dirais, essentiellement variable. Il y a des produits à tous les prix. C'est un peu comme les vins, mais partout, un peu comme les voitures et tout. Il y a différents niveaux de prix, différents niveaux de qualité, différents niveaux de produits. Et je pense que chaque catégorie trouve son marché. Et ensuite, c'est une question d'appréciation du consommateur, savoir s'il est prêt à payer plus pour une qualité mais supérieure ou qui lui semblera supérieure. Enfin, c'est vraiment ensuite un problème d'adéquation entre le goût du client et le produit qu'on lui propose. L'idée que nous avons, nous, c'est de fournir un éventail le plus large possible. Et c'est pour ça donc d'amener de nouveaux producteurs, de nouvelles marques et de développer celles existantes ici pour que les gens connaissent ces produits.
Est-ce que le marché des spiritueux a beaucoup souffert de la crise?
Ça dépend des régions. Enfin, il y a des régions ont été profondément marquées et d'autres beaucoup moins. L'Asie n'a quasiment pas souffert et au contraire continue à se développer. Le consommateur chinois, je veux dire, n'a pas de raison de s'arrêter.
Est-ce que les producteurs locaux de République tchèque commencent à être connus et reconnus ailleurs à l'étranger? On connaît un des gros producteurs qui s'appelle Jelinek, qui commence à acheter des usines, notamment au Chili, avec des champs de poire Williams pour développer ses activités. Est-ce que on commence à connaître les Tchèques à l'étranger?
Mais on commence à les connaître. Je pense une longue tradition, une longue culture tchèque de distillation et d'élaboration d'eau de vie essentiellement de fruits. Jelinek est un bon exemple. Au départ, c'était pas très très gros. C'est en train de devenir une grande maison. Effectivement, on commence à les voir en France, on commence à les voir un peu partout. On commence à bien les connaître et les gens à bien les apprécier. Enfin, et je pense qu'il y a d'autres producteurs qui demandent qu'à se développer, justement, avoir accès à d'autres marchés. Et c'est justement ça qu'on essaye de faire pour permettre à toutes les maisons, pas seulement les plus grosses, de pouvoir se faire connaître.
J'ai vu qu'il y avait dans votre salon des producteurs de rhum. Pour les Tchèques, le rhum, ça restait pour eux leur alcool local et ils ont dû changer le nom de leur rhum quand ils sont entrés dans l'Union européenne. Est-ce que vous pensez que le rhum des Caraïbes peut marcher ici?
Ah, je pense, oui. Je pense qu'il y a un marché qui a un bon développement ici. Les produits sont enfin, les rhums sont bien connus. Il y a aussi une culture d'élaboration de cocktails à partir de rhum qui sont très connus. Enfin, et les barmen ici sont très friands de rhum. Donc, je pense que oui, il y a des opérations à mener pour nos rhumiers des Antilles. Enfin, oui.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
C'était donc Eric Godet, organisateur du premier salon des spiritueux à Prague, au micro d'Alexis Rosenzweig. C'est ainsi que s'achèvent les émissions en français de Radio Prague. Merci de votre fidélité. À bientôt. Ahoy.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz, at 1030 hours on 9880 kHz. At 1300 hours on 11600 kHz, at 1600 hours on 9740 kHz, at 1700 hours on 9740 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Central and Western Africa can tune in at 2130 hours UTC on 9410 kHz. In the Near East and Middle East, you can listen at 0900 hours UTC on 17650 kHz and at 0330 hours on 9445 kHz. You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio.